Quand on parle de consentement, on a tendance à penser évidemment à une relation sexuelle. Et ça tombe bien puisque mon invité du jour, Olympe de G, que j'ai déjà reçu deux fois sur le podcast, mais il y a très longtemps, c'était au début du podcast, est passée de réalisatrice et performeuse de porno éthique, porno féministe, à la création d'un podcast qui s'appelle Le Serment d'Augusta sur le consentement à l'hôpital. Parce qu'en réalité, quand on parle de consentement, il y a évidemment cette idée de relation sexuelle, mais finalement, il y a aussi cette idée de consentement quand on prend soin des gens. Et finalement, au centre du consentement, il y a le soin. Et le soin, il se fait plutôt à l'hôpital. Mais le soin et le consentement, ils ne se font pas de la même manière à l'hôpital, en fonction des corps qui sont devant nous, en fonction des genres. Et en fait, c'est précisément la conversation qu'on a avec Olympe de G, qui est une conversation qui est hyper intéressante parce que je crois qu'elle est vraiment d'actualité. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Olympe.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va super, je suis très contente d'être ton invitée.
Et moi je suis ravi aussi. On a fait des épisodes ensemble il y a très longtemps. Il y a l'épisode 50 et le deuxième, je ne sais plus exactement, mais c'est des vieux épisodes, donc c'était au tout début de Vlan, parce qu'on se connaît bien. Et je pense que la première question à poser, c'est de définir c'est quoi le porno éthique, le porno féministe, et comment on rentre dedans.
Alors, tu as utilisé deux adjectifs que j'aime bien accoler à porno. Il y en a un troisième que j'aime encore plus, qui est alternatif. Et j'aime parler de porno alternatif parce que ça montre vraiment la volonté que je peux avoir de proposer une voie alternative au porno mainstream que tout un chacun, toute une chacune va trouver sur Internet. Et quand on parle d'éthique, j'aime bien séparer, comment dire, rendre les choses très claires en séparant en fait comment les films sont produits de ce qu'on montre à l'écran. Pour moi, ce sont deux sujets de réflexion très différents. Donc, tout d'abord, ce qu'on montre à l'écran, c'est quelle valeur mon porno va véhiculer. Perso, ce que j'essaie de faire pour que mon porno soit éthique, c'est qu'il véhicule des valeurs de respect de l'autre, d'inclusivité. J'essaie de déjouer les stéréotypes sexistes, racistes, auxquels on peut être confronté beaucoup dans le porno mainstream. Et puis, du côté de la production, c'est une réflexion sur comment on fait tout le chemin de création du film, de tournage, comment on fait pour que ça se passe bien pour toutes les personnes qui sont impliquées. Et notamment, dans le porno, il y a des scènes de sexe non simulées. Comment on fait pour que le consentement sexuel soit vraiment soit respecté quoi, à tous les stades.
Le porno, il est au cœur de la tourmente en ce moment. Et c'est intéressant de voir que les personnes qui travaillent sur ce rapport, ils mettent un peu tout dans le même sac.
Tout à fait.
Le porno éthique comme le reste, avec cette volonté quasiment religieuse, je dis religieuse mais c'est pas forcément le terme, de vouloir interdire totalement le porno, ou en tout cas de pas permettre l'accès au porno si on n'arrive pas à savoir quel est l'âge de la personne, etc. etc. Et ils font référence au porno éthique en disant finalement c'est tellement petit que c'est pas un sujet quoi.
Ouais.
Et toi t'as fait une vidéo que je trouvais hyper intéressante de réponse à ça, en particulier en montrant que si on regarde les images qu'on diffuse par ailleurs un peu partout sur Netflix, sur YouTube, etc. autour de la guerre par exemple ou de la violence, ça pour le coup, pour eux, c'est éthique. Enfin, quelque part, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien que tu nous réexpliques ça, parce que je trouve ça hyper intéressant dans ta manière, la manière dont tu le racontes, en fait.
Quand tu parlais d'amalgame, dans le rapport, en fait, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un amalgame entre exactement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire ce qu'on montre à l'écran, d'un côté, et comment c'est produit de l'autre. Donc c'est vrai que dans le porno, il y a un foisonnement de représentations violentes. Pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été produit, tourné de façon consensuelle. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ces rapports-là n'ont pas été consentis. Donc je trouve qu'il faut bien différencier ce qu'on représente et comment ça a été tourné. Ça, c'est vraiment important. Après, en fait, c'est vrai que ce qui m'a effrayée dans ce rapport qui a été présenté au Sénat, c'est le premier rapport qui est fait en France sur le porno, il fait 191 pages. Et bien, dans ce rapport, il est posé explicitement la question de est-ce qu'on peut encore tolérer une industrie qui est, enfin, où il se passe des violences ? Et bah, c'est vrai que là, en France, il y a eu l'affaire Jackie et Michel qui a horrifié, et à juste titre, absolument tout le monde. Mais en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est que quand on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas, en gros, totalement interdire le porno, c'est comment est-ce que c'est tenable, on va dire philosophiquement avec des guillemets, de réprimer, enfin d'interdire la représentation en fait de la sexualité tout entière, alors que c'est quelque chose qui est représenté depuis les origines de l'humanité, que c'est une expérience d'une vitalité incroyable. Enfin, on n'est jamais plus, on se sent jamais plus vivant ou vivante que quand on désire quelqu'un, et donc on va se priver de représenter ce que ça fait à notre corps, les érections des sexes. On va se priver de représenter ça. Et ouais, je trouve ça pas tenable, surtout dans une industrie audiovisuelle, enfin cinématographique, où effectivement il y a des représentations de violence ultime à peu près partout, et qui génère et qui demande énormément d'argent. Moi, il me semble, enfin, c'est un peu. En plus, moi, ce qui est terrible pour moi en ce moment, enfin, ce qui est rageant, c'est que je vois tout un cercle qui s'annonce, enfin, un cercle de personnes qui s'annonce comme étant féministe, comme étant progressiste, et qui défend plutôt que l'éducation, des mesures préventives, le fait de mieux encadrer, etc., qui défend la prohibition, la coercition, enfin, voilà. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu dur.
Il y a un mot que tu as employé plusieurs fois et qui va être au cœur finalement de notre conversation, c'est le consentement. Comment tu t'assures, enfin, qu'est-ce que ça veut dire le consentement dans le porno ? Et après, on va aller sur d'autres sujets, comme tu sais.
Alors, le consentement dans le porno, il y a le consentement, c'est le consentement sexuel tout court, hein, déjà, évidemment. Et il y a aussi un consentement à l'image. Que je trouve important aussi, puis qu'on peut avoir tendance à oublier. Comment dire ? Moi, en fait, pour réfléchir au consentement dans le porno, je me suis vraiment appuyée sur ma propre expérience corporelle. Et donc, je m'explique. Quand j'ai commencé, en fait, à vouloir réaliser du porno, je me suis dit qu'il fallait aussi que je tourne pour mieux comprendre en fait ce que ça fait, enfin pour plein de raisons, mais entre autres pour mieux comprendre ce que ça fait d'être devant la caméra et puis de recevoir des directions de jeu de la part de quelqu'un qu'on connaît pas, etc. Donc je me suis prêtée au jeu, et donc c'était avec une réalisatrice de porno éthique. Et donc je rencontre mon co-performeur en amont du tournage, hein, chose qui se fait dans ce champ du porno éthique, mais pas forcément dans le porno mainstream. Et donc on se rencontre, et puis la réalisatrice nous pose des questions, et elle me dit « Et toi alors, c'est quoi tes limites ? Qu'est-ce que tu veux pas faire en fait ?» Et autant il y avait des trucs qui étaient très clairs pour moi, donc par exemple pas de rapport anal, je savais que ça me fait mal, donc ça c'est... Mais en fait, quand on m'a demandé d'aller plus loin que ça, j'étais vraiment prise au dépourvu, parce que c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question. Donc, par exemple, je me suis retrouvée à dire des trucs genre « j'aime pas qu'on me touche les tibias, j'ai la peau sensible à ce niveau-là ». Et le performeur en face de moi, c'est presque un peu foutu de ma gueule, tu vois. Et en fait, ça m'a vachement interrogée. Je me dis, en fait, j'avais quand même à l'époque plus de 30 ans. Hein. Et j'étais arrivée à cet âge-là sans me poser de questions sur mes limites sexuelles, mes limites corporelles. Et donc, quand je me suis mise à tourner une dernière fois, qui est mon long métrage qui est sorti en juin 2020, je voulais absolument être aussi pointue que possible sur comment je fais pour garantir le consentement sexuel des performeurs quand ils vont tourner leur scène, quoi. Et donc, c'était important pour moi de leur proposer un outil pour exprimer, pour réfléchir déjà, et ensuite pour exprimer leurs limites. Parce que je trouve qu'on ne peut pas les sortir comme ça, quoi, de son chapeau. Ça demande vraiment une maturité sur ce sujet-là du consentement sexuel, et comme en fait on n'a pas, pour la plupart d'entre nous, grandi dans une culture du consentement, et ben on peut être hyper démunis, quoi. Donc pour moi c'est du coup un accompagnement, c'est vraiment quelque chose de dynamique et quelque chose qui va être dans la relation qu'on crée avec les gens, enfin voilà, c'est une relation aussi.
Donc en fait tu poses des questions spécifiques.
Ouais, tout à fait. Il y avait deux mesures, je vais en parler de façon très concrète, il y avait deux mesures en fait pour la préparation du film. D'une part, on avait créé avec l'équipe un formulaire de consentement, donc qui peut paraître très administratif, mais ça l'était pas. C'était un truc qui faisait 10-15 pages, et il y avait exemple un... Ouais, c'était long, mais avec des images et tout. Donc par exemple, on avait des silhouettes de corps, et on posait la question de... Qu'est-ce que vous êtes d'accord pour que la caméra filme, en fait ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Donc, par exemple, dans le cas... Enfin, Brigitte Lahaie, qui était le personnage principal du film, elle avait une limite, c'est « je ne veux pas qu'on filme mon sexe ». Voilà, donc ça, c'était clair. Et il peut y avoir d'autres performeurs avec qui j'ai déjà tourné qui ont d'autres limites, qui n'aiment pas qu'on voit leur ventre, ou leurs dents, etc. Donc ça, c'était la première page. Ensuite, il y avait une deuxième page, donc sur « qu'est-ce que je veux pas qu'on touche ?» Et ensuite, on rentrait vraiment dans les... Ah non, après, il y avait le script. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est quand on fait du porno, généralement, on fait une fiction qui raconte du cul, quoi. Et donc, cette fiction-là, comme n'importe quelle fiction, elle doit être scriptée. Donc, il y avait le script avec tous les gestes qui, pour moi, avaient un sens dans l'histoire, qui disaient quelque chose des personnages, donc avec tous les gestes sexuels, pour que les performeurs puissent consentir avec quelque chose de précis. Parce que si on consent juste à avoir un rapport sexuel, c'est beaucoup trop vague. Donc, il fallait qu'il y ait une base extrêmement précise pour qu'il y ait un accord. Et puis après, comme les gens sont quand même pas des robots quand ils font l'amour, il y avait un questionnaire et là je m'étais inspirée des questionnaires qu'il y a dans le milieu du BDSM avec des actions. Alors je vais donner des exemples, par exemple cracher dans la bouche ou fesser. Eh bien il y avait à chaque fois, est-ce que je suis ok pour par exemple donner, c'est-à-dire cracher dans la bouche, ou pour recevoir, c'est-à-dire qu'on me crache dans la bouche, pour donner une fessée ou pour recevoir une fessée. Et donc tout ça, il y avait des dizaines de trucs, mais qui me permettaient du coup de s'interroger, quoi. Par exemple, il y a un performeur super expérimenté, qui était dans le porno depuis 15 ans, qui avait tourné aux États-Unis et tout, qui s'était un peu foutu de ma gueule avec mon formulaire. Hein. Il m'avait dit, bon, ça c'est quand même plus pour les débutantes, féminisées hein, en plus, tu vois. Et au final, on a appris que lui, il n'aimait pas être en contact avec les fluides corporels de l'autre. Donc, il voulait pas de salive, il voulait pas. Donc, il fallait utiliser du lubrifiant et tout. Mais donc, c'était un truc qu'il nous avait pas dit spontanément. Donc voilà, qu'on soit débutante comme moi je l'étais, même si j'avais 30 ans, ou qu'on soit dans l'industrie depuis longtemps, finalement, je pense que c'est des outils qui peuvent être super intéressants. Et puis l'autre deuxième grande mesure, c'était la présence d'une coordinatrice d'intimité, donc Lélé, avec qui je travaille pour Vox, et qui était à temps plein dédiée à l'écoute et justement qui était un peu la gardienne des limites énoncées par les performeurs. Et en fait, le rôle de Lélé, c'était qu'il n'y ait pas justement cette intimidation potentielle que peuvent ressentir les performeurs. Enfin, pas intimidation dans le genre quelqu'un essaie de les intimider, mais dans le sens, on est sur un plateau, on va être peut-être un peu flippé de se faire mal voir ou autre, et donc on ne va pas forcément oser exprimer un malaise. Et bien là, il y a une personne qui a rencontré les gens en amont, qui sait à quoi ils ressemblent quand ils vont bien, et qui peut donc être vraiment dédiée à demander plein de fois est-ce que ça va, vraiment pour être sûr de capter s'il y a quelque chose qui n'est pas explicitement verbalisé, quoi. Parce que ça demande de la force quand même de dire face à toute une équipe qui est là, qui est généralement sous pression de l'emploi du temps et tout, il y a quand même un climat, c'est vraiment sous tension un tournage généralement. Et ça demande quand même un sacré caractère de dire ouais, attendez, stop, là j'ai mal, ou stop, là je me sens pas bien, ou c'est compliqué. Donc le fait d'avoir une coordinatrice d'intimité, ça permettait d'avoir quelqu'un qui facilitait ça.
Et donc quand on parle de consentement, c'est intéressant parce que toi tu sors aussi un podcast sur le consentement, mais alors dans le milieu médical, ça peut sembler un peu étrange de faire le pont, tu vois, si je dis de but en blanc du porno médical, le consentement, les gens ils font what. Mais du coup je pense qu'en t'écoutant on arrive à comprendre là où tu vas, donc comment toi t'en es arrivé à te dire qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ou dans une situation de soins?
Eh bien, écoute, j'étais en train de travailler justement sur cette préparation de mon film une dernière fois, de réfléchir à tout ça. Et en fait, c'est à cette époque-là que j'ai été confrontée sur les réseaux sociaux au hashtag StopVOG, donc Stop les violences gynécologiques et obstétricales. Et en fait, là, alors moi, je n'ai pas du tout été victime de ça. Je suis une femme épargnée. Mais en revanche, voilà, j'ai découvert qu'il y avait énormément de femmes qui, enfin, voilà, dont on n'avait tout simplement pas... respecter le consentement, pas demander souvent, et puis parfois lorsqu'elle disait non, en fait arrêtez, vous me faites mal, etc., bah, ce n'était pas respecté. Et en fait, en visualisant dans ma tête les tweets que je lisais, etc., il y en avait pas mal qui se passaient en milieu hospitalier, et en fait j'en suis venue à visualiser quelque chose qui m'a semblé hyper proche d'une situation sur un plateau de porno, c'est-à-dire une femme qui va être dévêtue, qui va être au milieu d'une équipe de gens qui sont tout habillés, qui sont en position plus ou moins d'autorité. Enfin, en tout cas, ils ont le contrôle sur ce qui se passe. Ils sont dans un environnement qu'ils connaissent, alors que la personne au milieu qui a poil, la femme, elle ne connaît pas. Et je me suis dit, en fait, il y a quand même c'est fou, il y a quand même des similarités. Et il y avait j'étais confrontée aussi sur les réseaux sociaux aux défenses en fait des gynécologues et de leur corporation, etc., qui disaient mais on peut pas parler de violence, on est là, on fait ça parce qu'on veut faire du bien aux femmes, enfin tout ça dans un truc très paternaliste, au lieu de s'arrêter deux secondes, de souffler et de se dire réfléchissons à pourquoi est-ce qu'elles ressentent des violences, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et donc je me suis dit il y a besoin apparemment aussi d'une réflexion sur le consentement dans ce milieu médical. Et je trouve qu'en fait, en commençant à m'intéresser à ça, je me suis mise à lire Martin Winkler, Baptiste Beaulieu, je me suis mise à lire les médecins qui défendent vraiment des relations horizontales entre soignants et soignés, pas un truc de position d'autorité qui peut être coercitive en fait et violente du coup. Et je me suis rendu compte que, en fait, depuis MeToo, il y avait un rapport au corps, en tout cas chez les femmes, qui s'était exprimé, qu'on avait évolué là-dessus et qu'il était devenu vraiment insupportable, qu'on ne garde pas le contrôle sur notre corps, en fait, mais dans quelque contexte que ce soit, y compris un contexte médical. Et que donc, apparemment, ça pouvait être intéressant de rentrer dans un dialogue, moi, en tant que patiente, en tant que personne qui a été soignée, en tant que citoyenne, tout simplement, en tant que personne qui réfléchit au consentement, de rentrer dans un dialogue avec les personnes qui sont en contact avec le corps des autres, c'est-à-dire avec les soignants, sur comment on peut faire en sorte que la relation de soins, elle se passe bien, comment on demande le consentement, comment on s'assure, au-delà de ce qui est verbalisé, que le consentement est toujours là, en regardant la gestuelle des gens. Quelles sont les bonnes questions à poser? Qu'est-ce qu'on fait quand la personne nous dit non? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là que je me suis posée. Et donc ça a donné lieu à un podcast qui s'appelle Le Serment d'Augusta.
Et en fait c'est marrant parce que quand tu dis ça, moi il y a deux choses qui viennent naturellement. La première c'est de me dire, ces personnes, les médecins, les soignants sont sous pression. Et c'est déjà pas mal, leur taf il est incroyable. Et de se dire qu'en plus, on leur reproche de ne pas prendre bien soin des personnes, c'est un peu pousser mémé dans les orties, quoi, si je prends l'expression. D'un autre côté, ils sont sous pression parce que pas assez de personnel, parce que voilà. Et puis, je crois que de manière, on va dire, systémique, ou en tout cas le système, la manière dont est organisé l'hôpital, est aussi, je pense, problématique. Et puis, par ailleurs, ils ne sont pas formés non plus pour le faire. Et d'un autre côté, je me dis, c'est vrai que cette machine qu'est l'hôpital, alors je ne parle pas forcément des cliniques privées, etc., mais ça broie de l'humain, quelque part. J'ai l'impression que ça broie de l'humain. Ça broie de l'humain les soignants, c'est-à-dire parce qu'en fait, la machine est faite de telle manière qu'en fait, ils prennent les personnes un peu comme des morceaux de viande, quoi, entre guillemets, j'exagère un petit peu, mais c'est pas loin d'être ça pour plein de cas, et bien sûr qu'il y a plein d'exceptions, etc., mais on se retrouve dans une situation un peu malgré eux, quelque part, mais qui, voilà. Et de l'autre côté, les soignants, ils sont aussi un peu broyés, parce qu'en fait, ils ont le temps de rien, finalement.
Absolument. En fait, c'est très difficile, comment dire. En fait, c'est un phénomène qui est très analysé. Enfin, c'est en fait le système est devenu maltraitant Et donc, les soignants deviennent, enfin, s'insensibilisent et deviennent eux-mêmes maltraitants. Enfin, c'est, je veux pas faire de généralité, mais en tout cas, en gros, c'est cette dynamique-là. Hein, et c'est très très dur pour les personnes qui ont fait cette, qui ont choisi cette profession parce qu'ils voulaient mettre du sens dans leur carrière et qui se retrouvent, enfin, à pas avoir de sens dans la façon dont ils prennent soin des gens. Après, en fait, la réflexion, moi, que j'ai envie de proposer, c'est sur cette culture du consentement dont je parlais un petit peu plus tôt et dans laquelle personne n'a grandi, y compris, enfin, même, enfin, dans les études de médecine, en fait, ou les études de sage-femme ou autre, en fait, le consentement, on l'aborde d'un point de vue légal. Donc oui, il y a la loi Kouchner qui fait que tout le monde, enfin, tout patient va devoir lui demander son consentement libre et éclairé, mais pour autant il n'y a pas comment dire, des, tu vois, des ateliers où va y avoir un jeu de rôle avec une personne qui a dit oui mais dont on voit qu'elle se met à pleurer pendant un examen, enfin, en fait, comment on réagit dans toutes ces situations là quoi. Il y a des situations qui sont en fait objectivement dégradantes, etc. Et puis il y a toutes les situations de zone grise où en fait on pourrait juste faire mieux avec un petit peu plus de connaissances, quoi. Donc je pense que c'est, enfin, l'idée de ce podcast, c'est juste de proposer un espace pour commencer à s'imprégner, enfin, à se poser des questions et puis à, peut-être à s'imprégner un peu de ce que ça peut être de s'assurer du consentement de quelqu'un au-delà de l'aspect légal qu'on apprend pendant les études, quoi.
Est-ce que tu dirais qu'il y a un respect différencié en fonction des corps des personnes ? Est-ce que quand on est blanc, quand on est fit ou quand on... Enfin, je sais pas. Est-ce que ça fait une vraie différence ou est-ce que c'est la même machine à broyer, entre guillemets, pour tout le monde ?
Non, non. Bah, y a clairement des discriminations. Enfin, il y a clairement des discriminations dans la façon dont les gens sont traités. D'ailleurs, le premier épisode du podcast parle de la grossophobie, en fait, qui est un biais très courant dans la population générale, mais donc également chez les soignants, qui fait que, en fait, il y a des pertes de chance terribles pour les patients et les patientes qui sont en situation d'obésité, parce que les médecins vont avoir tendance à se dire à chaque fois que les gens viennent avec une douleur, un problème de santé, de se dire ok, mais c'est à cause de l'IMC, c'est à cause de leur poids, et de les renvoyer.
C'est un peu leur faute.
Ouais, voilà, c'est de leur faute, il y a une culpabilisation. Mais bien sûr que oui, il y a un corps standard en médecine, qui est le corps blanc, jeune, enfin, là, là-dessus, on pourrait en parler des heures. Mais en fait, j'ai juste envie de citer une gynécologue que j'aime bien, juste pour reprendre ce que tu disais un petit peu avant, qui s'appelle Laura Berlingo. Et tu parlais du fait que les soignants avaient le temps de rien faire, etc. Et que du coup, c'était un peu compliqué de dire, bah, en plus, vous prenez pas vraiment bien soin des gens, etc. Mais Laura Berlingo, qui est gynécologue obstétricienne, qui a travaillé longtemps à la Pitié-Salpêtrière, me disait, mais en fait, ça prend pas plus de temps de dire, je vais faire ça, que de dire, est-ce que je peux faire ça ? Ça prend exactement le... Et en fait, ça prend le même nombre de secondes. Et en fait, si la relation qui est tissée avec la patiente, c'est une relation de confiance, ça change tout, quoi.
Est-ce qu'il y a on a parlé des différentes typologies de corps. Est-ce qu'il y a des différences par rapport au genre ? Est-ce que quand t'es un homme, c'est différent que quand t'es une femme ?
Ouais.
Ou quand t'es transgenre, alors après.
Oui. Après, je me sens vraiment pas forcément la plus qualifiée pour rentrer là-dedans, mais oui, absolument. En fait, quand on regarde les scandales sanitaires de ces dernières années, ils affectent principalement des femmes. Par exemple, dans le premier épisode du serment d'Augusta, je reviens sur le scandale du Mediator. Je suis allée interviewer Irène Frachon, qui est pneumologue et qui a été lanceuse d'alerte sur ce sujet, et qui explique qu'en fait le Mediator, qui était à la base un antidiabétique, il a été prescrit par des médecins à des femmes qui n'avaient pas de diabète, mais qui voulaient maigrir pour que leur corps rentre dans le standard, en fait, dans la norme de d'un corps séduisant, donc d'un corps mince, quoi. Et donc, en fait, il y avait certaines de ces patientes qui se retrouvaient avec de graves problèmes cardiaques et quand t'es retourné voir le médecin en disant mais par contre je suis essoufflé tout le temps, etc., on les renvoyait de nouveau à leur poids. Donc ce qui fait que au lieu de chercher est-ce qu'il y a un souci depuis qu'elles prennent le Mediator, les gens, enfin voilà, les soignants sont complètement passés à côté du fait qu'elles étaient elles avaient une affection cardiaque grave, quoi. Et en fait ce qu'elle explique, son interview est, enfin fait peut-être 7 minutes, donc elle explique ça vraiment très bien. Elle explique à quel point, enfin de A à Z dans la prise en soin de ces femmes, en fait c'est la grossophobie a vraiment pesé, et puis la grossophobie était là parce qu'on attendait de leur corps de femme qu'ils soient séduisants, donc minces. D'ailleurs j'ai lu un livre vraiment super, que je recommande vraiment chaudement, sur le corps gros, c'est le livre de Roxane Gay qui s'appelle Hunger, où elle décrit son rapport à son corps obèse, et il y a un passage qui est vraiment beau où elle voit les regards des hommes sur elle dans la rue qui sont méprisants, qui sont dans le dédain. Et elle dit, mais en fait, moi, ce que je lis dans ces regards, c'est qu'ils trouvent incroyable que je ne fasse pas l'effort, que je ne fasse pas en sorte d'être à leur goût, que je ne fasse pas en sorte d'être baisable, et que j'ose me balader dans l'espace public sans être baisable. Voilà, c'est un livre qui est très fort.
Ouais, effectivement. Et c'est quoi les choses, ou la chose, peut-être, j'envisage plusieurs, mais qui t'ont le plus marqué, parce qu'en fait, il n'y a pas de ce podcast, c'est vraiment un sujet auquel tu t'intéresses de manière vraiment particulière. Qu'est-ce qui t'a, sur ces dernières années, le plus marqué sur ces sujets de consentement, et en particulier d'éthique à l'hôpital, au final?
En 2018, il y a quelqu'un de ma famille, de jeune, qui a été diagnostiqué d'un cancer. Et du coup, étant proche de cette personne, j'ai suivi le parcours de soins. Et c'est un moment qui est où on a peur, quoi. On a peur de la mort. Enfin voilà, c'est un moment fort qui se passe donc dans les murs de l'hôpital. Et il y a eu des épisodes. Des épisodes traumatiques où le consentement de cette personne n'était pas respecté. Alors une biopsie qui a été extrêmement douloureuse, où cette personne a été maintenue par les soignants alors qu'elle pleurait. Ou encore, on a dû lui poser un cathéter pour la chimio. On lui avait promis qu'elle serait sous... j'ai oublié le nom du gaz, mais il y a un gaz qui permet d'être un petit peu anesthésiée. Et on lui avait promis qu'elle aurait ça, donc elle est descendue au bloc en pensant qu'elle aurait ça. Et puis, en fait, non, quoi. On lui a proposé à la place de l'hypnose, hein, ce qui est très cool, mais en fait, c'est pas ce à quoi elle avait consenti, quoi. Donc, des épisodes où moi, en tant qu'accompagnante et tout, j'étais vraiment choquée, parce que t'es déjà dans une situation qui est traumatisante, et t'as envie qu'on prenne soin, mais à tous les niveaux de la personne qui traverse ça, quoi. Donc je pense que ça m'a donné envie de déplacer mes réflexions vers le champ médical. Je me suis dit que le consentement, ça avait lieu dans l'intimité. On parle beaucoup de l'intime, mais il y a d'autres endroits, en fait, dans notre vie où le consentement est crucial et où on peut être exposé à des traumas terribles. Et c'est là que les témoignages des VEG m'ont aussi, sur les violences obstétricales et gynécologiques, m'ont aussi vraiment marqué, quoi. Parce qu'en fait, les femmes qui ont vécu ça parlent de traumas sexuels. Enfin, ce sont des traumas sexuels. Elles ont des symptômes post-traumatiques qui sont les mêmes qu'après une agression sexuelle, un viol pour certaines d'entre elles. Et c'est vrai que je n'avais pas réfléchi à ça. Et puis en plus, je me suis dit, ce qui est hyper intéressant, c'est sur cette réflexion sur les violences, j'ai l'impression que jusqu'à il y a quelques années, dans le grand public, on était très sur une réflexion, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est dans le droit, hein, il me semble également, sur en fait l'élément moral d'un crime, c'est-à-dire l'intentionnalité. Ou en fait, si la personne a une intention malveillante, on peut parler de violence, c'est justifié. Et ça, c'est un truc qu'on a déconstruit ces dernières années, et je trouve ça intéressant, et notamment dans le milieu médical, parce qu'on est quand même face, dans une grande majorité du temps, à des gens qui veulent être bienveillants, qui veulent bien faire, mais qui se retrouvent à commettre des violences. Et en fait, c'est pas un paradoxe, mais ce fait-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant pour la réflexion sur les violences faites aux femmes.
Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir se lier à ce que tu racontes, parce qu'on est tous plus ou moins passés par des expériences... En fait, c'est très ambigu, la relation hôpital, parce que d'un côté, on est extrêmement reconnaissante, parce que ça sauve des vies, et on est très reconnaissante des soignants. D'un autre côté, on est aussi très fier de l'hôpital français, parce que il est gratuit, plus ou moins, mais enfin, il est quand même très peu cher, etc. Et de l'autre côté, y a des traumas, en fait. Et on n'ose pas vraiment en parler, donc moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, d'aborder le point. Enfin, tu vois, ça me semble crucial.
Ouais, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un endroit... Enfin, quand on se trouve dans cet endroit, on est souvent dans des périodes de très grande vulnérabilité. Parce qu'on accompagne quelqu'un qu'on aime et qui va pas bien. Ou même, en fait, quand on n'est pas dans la pathologie qu'on a besoin de faire soigner, en fait, c'est des moments vraiment cruciaux. Je pense à l'accompagnement pour des démarches autour de la fertilité. Enfin, en fait, c'est des moments où on est vraiment vulnérable. Et pour être complètement honnête et sincère, en fait, j'ai vraiment aucune envie de jeter la pierre aux équipes soignantes. Alors, pour expliquer aussi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire un peu plus tôt. En fait, sur pourquoi je me suis rapprochée du monde médical, en fait, j'ai souhaité, moi, me tourner vers le milieu médical pour, de façon professionnelle. J'ai commencé des études en première année infirmière à Saint-Brieuc l'année dernière, par exemple, que j'ai abandonné parce que, enfin, c'est une autre histoire, mais parce que d'une part parce que je me suis rendu compte que les soignants étaient globalement en grande souffrance, que je sortais moi-même d'un burn-out à 39 ans et que je me suis dit il y a un moment de ta vie où il va falloir aussi prendre soin de toi, et d'autre part parce que le système d'apprentissage était extrêmement infantilisant, paternaliste, enfin beaucoup de choses qui étaient vraiment, enfin même sur une durée de 3 ans d'études qui me semblait vraiment pas... Enfin, j'avais pas envie d'être dans cette ambiance-là, quoi. Je dis ça, en fait, moins pour raconter ma vie que pour dire j'ai vraiment la plus sincère admiration pour les soignants et les soignantes. Juste peut-être ça sera plus intéressant que ce truc qui pourrait passer un petit peu pour, du sirop, mais qui est sincère. Attends, putain, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. En plus, en abordant ces sujets autour du corps dans le contexte médical, du corps dans le contexte hospitalier, en fait, c'est un peu comme quand je parle de consentement sexuel dans les rapports intimes. J'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction qui est personnelle, et c'est que l'éducation au consentement, elle se fait aussi quand on est du côté des personnes victimisées. C'est-à-dire que moi, je me suis... comme je l'ai exprimé un petit peu plus tôt, je me suis sentie jusqu'à très tard, et je me sens encore pleine de lacunes sur l'expression de mon consentement. J'ai du mal à dire stop, j'ai du mal à dire non, j'ai pas grandi comme ça. Et donc, en fait, quand j'écoute des choses sur... des contenus sur voici comment par exemple une situation sexuelle devrait se passer, voici ce qui serait normal, voici ce qui serait sain, et ben ça m'aide en fait à construire en moi ces certitudes sur ok, là quand mon corps me dit que c'est pas ok, c'est que c'est pas ok, et ça va peut-être m'aider à m'exprimer plus vite, mieux, plus fermement la prochaine fois, quoi. Et ça, enfin, je trouve que dans cette culture du consentement, on s'adresse certes aux personnes qui commettent des agressions, mais aussi aux personnes qui vont être agressées, pour qu'elles puissent se défendre, sortir de la sidération, être armées, avoir quasiment des réflexes, quoi. Et là, il ne s'agit pas du tout de renverser la charge, quoi, et de la responsabilité. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui m'a aidée. Et pareil, pour le milieu médical et hospitalier, je trouve que c'est vachement important qu'on puisse se dire, étant donné qu'on est tellement impressionné et tellement admiratif, comme moi-même je le suis, vis-à-vis des médecins, des chirurgiens, etc., qu'on puisse se dire, en fait, là, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, ce n'est pas le rôle de ce soignant, de cette soignante. Une de leurs devises, c'est tout d'abord ne pas nuire. En fait, là, on est en train de me nuire, donc j'ai aussi le droit de dire stop. Peut-être que cette personne est experte dans son champ médical, moi je suis experte de mon corps et de ce qui me fait du bien, me fait du mal. Là, je ressens une effraction, donc stop, quoi. Et voilà.
Il y a un truc que je trouve intéressant dans la conversation qu'on n'a pas vraiment exprimé, mais qui, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça résonne chez moi, donc après, c'est tout relatif, mais J'ai la sensation que pendant... Enfin, et nous, vu notre âge, on va dire, on a grandi dans cette culture où le corps, c'était pas central. On était vraiment beaucoup plus sur l'intellect. Et là, en fait, c'est comme si... Alors, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, j'en sais rien, ça se trouve, ça se trouve c'était vrai il y a 20 ans, et c'est sauf que j'étais trop jeune. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve, on reconnecte avec nos corps, tu vois. Je pense à ce bouquin sur le corps des femmes, j'ai oublié le nom de l'autrice.
Camille Froide-Vaumétrie, peut-être,
voilà,
la philosophe.
Exactement, Camille. Que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je la reçoive, mais je l'ai pas fait. Et j'ai l'impression qu'on reconnecte avec nos corps. Je sais pas ce que t'en penses, il y a vraiment cette logique. Avant il y avait vraiment le corps machine, et maintenant on est beaucoup plus, enfin je sais pas si maintenant on est beaucoup plus ou on évolue dans une bulle qui fait que, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion au corps.
Ouais, mais je suis complètement d'accord. Et si tu viens de me faire faire un bond en arrière de dingue, quoi. Moi, j'étais bonne élève.
Désolée.
Non, mais un bond, je veux dire, excuse-moi, c'était mal formulé, un bond dans le temps de dingue. Moi, j'ai grandi dans une famille intello. Enfin, mon père et ma mère étaient tous les deux très intello. Et tu vois, c'était limite, c'était pas valorisé d'être mauvaise en sport. Enfin, c'était vraiment. Je me rappelle d'avoir vu une espèce de discours d'un prof d'université qui disait, il avait une formulation marrante qui m'échappe totalement, mais où en gros il décrivait que le corps n'était rien quand on est prof d'université, qu'en fait il ne servait qu'à emmener une tête énorme d'une salle de conférence à une autre salle de conférence. Et c'est vrai que c'était, mais enfin longtemps pour moi mon corps n'a été que ça, quoi. Et du coup il y avait un manque d'éducation à la connaissance de mon corps qui était total, quoi. Et je trouve ça génial que là le corps soit au centre de nos préoccupations, qu'on apprenne à s'écouter, qu'on se prenne conscience du fait que ce sont des sujets politiques. Enfin, alors là, moi, j'ai ma perspective de femme féministe, hein, donc je vais plutôt parler de ça, mais que.
Ouais. Mais non, mais même dans l'intime. Mais c'est vrai que tu parles beaucoup des femmes et que quid des hommes.
Ben non, mais parce que en fait, je parle de ce que je connais. Je préfère parler de ce que je connais, en fait, tout simplement. Mais pour en revenir au porno avec lequel on a commencé cet entretien, moi je suis convaincue que le porno féministe, le porno éthique, il est hyper crucial pour changer les représentations de la sexualité, que ce soit chez les femmes à qui je m'adresse en premier lieu, parce que je connais leurs problématiques dans ma chair, en fait. Moi, j'ai envie que les femmes n'aient pas honte de leur corps, j'ai envie qu'elles voient des pratiques qui ressemblent à ce qu'elles se font et ce qui leur font du bien, quoi. Mais je suis convaincue que c'est crucial aussi pour les hommes, et qu'ils ont des anxiétés de performance de malades à cause du porno, que c'est crucial qu'ils puissent se construire avec une représentation plus saine de ce que c'est que la masculinité, en fait. Et puis alors, sans parler du milieu hospitalier, où bien sûr là je parle des violences obstétricales et gynécologiques, encore une fois, parce que moi mon focus et mon expertise, entre guillemets, c'est, enfin, mes points d'intérêt, ils sont proches du sexe des femmes, enfin voilà, mais donc je parle de ce que je connais, mais évidemment là on parle des corps de tout le monde, mais je suis obligée de dire c'est pas du tout pour remettre la conversation uniquement sur les femmes, c'est que vraiment juste c'est je veux bien expliquer que c'est ce que je connais, quoi, et que je parle avant tout ça.
Non, mais c'est très clair, très clair. Dans la réalisation du podcast, qu'est-ce que t'as appris, ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement quand t'as fait ce podcast, parce que t'avais des ambitions à l'origine, mais du coup et la manière dont il est fait en plus. T'as été chercher énormément d'informations, tu t'es beaucoup cultivé, et puis t'as rencontré beaucoup de monde, t'es allé sur le terrain, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le plus choqué, ou les choses, peut-être, c'est pas une seule chose.
Ça, c'est une bonne question, parce qu'en plus je suis encore en plein dedans. Donc j'ai un peu du mal à répondre à cette question. En tout cas, clairement, le travail dont je suis le plus fier, c'est l'épisode sur le consentement, hein, parce que tout le podcast n'est pas sur le consentement. Il y a un épisode. En fait, je crois, allez, ce qui me marque le plus, c'est c'est comment dire, c'est de confirmer l'intérêt que j'avais qui m'a poussée à commencer des études infirmières. C'est de confirmer en fait l'envie que j'ai et le besoin que j'ai d'apprendre sur mon corps. Et là, on rejoint, tu vois, ce que tu disais en fait sur le fait que le corps soit central maintenant. En fait, je suis ravie de tout ce que j'ai pu apprendre sur le fonctionnement de nos corps, quoi. Ça me passionne. C'était vraiment une connaissance que j'avais besoin d'acquérir. J'ai été aussi marquée par le fait qu'il y ait des gens géniaux. Enfin, chez les soignants, j'ai rencontré des gens, mais qui sont... je sais pas, t'as envie qu'ils deviennent tous tes meilleurs amis, quoi. Mais non, mais parce que c'est des gens qui sont à la fois brillants, qui travaillent comme des fous, qui essayent de faire le mieux possible pour les autres. Enfin, c'est tout en se tenant à la pointe de la science, tout en lisant des bouquins sur MeToo pour certains d'entre eux. Enfin, t'es là, mais en fait, tout en ayant une vie de famille, tout en... il y a un côté, ouais. Il peut y avoir un côté assez impressionnant. Hein. Moi, je suis toujours quand même dans l'admiration face à ces gens. Et donc ouais, une certaine jubilation de pouvoir m'approcher de tous ces sujets passionnants qui sont à la fois sur le corps et à la fois complètement sociétaux et à la fois intimes, émotionnels et à la fois à la croisée des connaissances les plus pointues. Enfin, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant.
Et qui est dédié, je sais pas s'il est dédié au personnel de soins ou s'il est dédié au kidam, on va dire, mais la question que je me pose, c'est tu considéreras que c'est un succès si...
Ah oui, pardon, il faut que je...
pardon, c'est une question.
Je crois que tu réfléchissais.
Non, pas du tout, c'est ma question.
Alors, déjà, pour répondre à la première partie de ta question, en fait, c'était tout le challenge de l'écriture de ces épisodes, c'était que l'on s'adresse à la fois à toi, moi, enfin n'importe qui. Hein, c'est un podcast qui va sortir sur Binge Audio, qui est pour le grand public, et aussi aux étudiants et étudiantes de santé. Parce qu'il va sortir, ça va être une UE à la Sorbonne, donc il va y avoir, c'est un contenu pédagogique. Quoi. Mais ça relève vraiment de cette conviction que c'est des thématiques où les patients, patientes et puis les soignants, soignantes ont besoin de s'éduquer ensemble pour avoir des conversations ensemble lors des consultations. Et pour moi, ce sera un succès en fait si ça aide des personnes qui vont en consultation à poser des questions plus acérées parce qu'elles auront développé une certaine culture de rapport à leur corps dans le milieu médical. Et y a des soignants, soignantes qui n'avaient pas le temps ou qui n'avaient pas eu l'occasion de réfléchir aux thématiques, par exemple, de la grossophobie, des biais, des discriminations. Le deuxième épisode, je l'aime beaucoup parce qu'il est sur la culture carabine, qui est toute la culture des salles de garde, des chansons paillardes, qui est une déconstruction de cette culture-là et qui en gros dit oui, vous avez besoin d'exutoires, vous faites des études qui sont hyper dures, par contre... est-ce qu'on peut pas repenser à un humour un peu 2022, quoi, qui soit pas sexiste et raciste? Et je suis allée à la rencontre d'étudiants, d'étudiantes qui réécrivent les chansons paillardes, qui repeignent les murs des salles de garde avec des trucs plus inspirants, quoi. Qui restent hyper sexuels et tout, mais qui sont pas offensants. Du coup, je me suis complètement perdue dans ce que je voulais dire.
Non, mais moi, je connaissais pas du tout cette culture carabine, c'est marrant.
Mais les salles de garde, tu sais, avec les fresques, les orgies.
Je sais pas.
Ah ouais, pardon. Non, mais en fait, ça doit être un truc de féministe parce qu'il y a des scandales régulièrement. Il y a une fresque à Toulouse qui a été vachement décriée parce qu'on y voyait. Alors, je sais plus ce qu'on y voyait, mais enfin, quelque chose, je pense, qui devait s'apparenter à un viol ou quelque chose de dégradant, quoi. Donc, il y a vraiment une culture très hyper sexualisée, avec des blagues. Les blagues qui sont faites au bloc opératoire, c'est des blagues. C'est vraiment de l'humour noir, quoi. Hein, c'est vrai que c'est très défendu par la profession en disant lâchez-nous un peu, quoi. Il y a un moment où il faut qu'on évacue, on est en contact avec la mort, avec des choses très difficiles, on a besoin de. Mais en fait, l'humour peut exister sans être aux dépens des plus faibles. Enfin voilà, ça peut être l'humour peut aller plus loin que ça, quoi.
Par conséquent, pour toi, j'ai l'impression que dans ce que tu décris, on pourrait améliorer la situation dans le contexte existant. Et moi, ce que je connais, on va dire, si tant est que je connaisse grand chose, mais du milieu médical, c'est que vraiment, de manière systémique, le fait que ça soit ultra centralisé, qu'on ait voulu, en fait, j'ai eu cette discussion avec le fondateur du SAMU social et de Médecins Sans Frontières, où, en fait, pour des raisons financières, etc., on a centralisé les hôpitaux, et que ça, c'était, ça a fonctionné pendant une période dans un contexte qui était celui des années 70, mais qu'aujourd'hui, ce contexte-là, c'est plus le même, et que, en fait, en concentrant comme ça, en fait, on a complètement perdu la partie humaine. Et pour lui, typiquement, il faudrait quasiment casser l'hôpital. En fait, ce mode de fonctionnement ne marche plus. Donc, en fait, lui, ce qu'il avait tendance à critiquer, c'était de manière systémique l'hôpital. Tandis que toi, ce que tu décris, c'est que sans doute le côté systémique, mais en fait, même à l'intérieur de ce côté systémique, on peut quand même améliorer les choses. Je me trompe ou...
Ouais, bah parce qu'en fait, le côté systémique, effectivement, l'hôpital, il traverse une crise terrible, encore renforcée par la crise du Covid, où en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau management de l'hôpital où c'est plus les médecins, en gros, qui font la loi, qui décident comment les choses s'organisent, où vont les budgets, etc. Ce sont des administrateurs. Et donc ça c'est devenu soit on peut dire un hôpital entreprise ou un hôpital usine, enfin en tout cas c'est plus un hôpital où tout est centré autour du soin des gens. Pendant la crise du Covid, en fait, il y a eu de nouveau une espèce de moment comme ça où quoi qu'il en coûte, il fallait guérir les gens, et donc en fait il y a eu chez les équipes soignantes une sensation de retrouver une cause commune, de retrouver du sens, quoi. Et quand on est sorti plus ou moins de la crise du Covid, il y a eu une grande désillusion parce qu'on est revenu à l'administratif, très très lourd, quoi. Donc effectivement, il y a quelque chose de systémique. Et là-dessus, il y a un livre qui est chouette à lire qui s'appelle Omerta à l'hôpital, dans lequel il y a des essais, enfin c'est des témoignages de maltraitance à l'hôpital. Et il y a à la fin un tout petit essai de Christophe Dejour, qui est un psychiatre qui est spécialisé dans la souffrance au travail, qui parle de souffrance éthique, le fait qu'on est là pour faire un travail qui a du sens pour nous et qu'en fait on est obligé de travailler dans des conditions qui font que en fait ça n'a plus de sens, quoi. Et ça conduit à l'insensibilisation et donc après à la maltraitance, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Après, est-ce que je vais réussir à changer le système? Non. Est-ce que les gens qui travaillent à l'hôpital vont réussir à changer le système? Absolument. Enfin, peut-être, mais enfin bon, c'est compliqué, quoi. Donc moi, j'essaie plutôt de parler, en fait, du fait qu'on est tous humains et qu'on a grandi avec un certain nombre de conceptions qu'on peut faire évoluer pour que les rapports humains aillent mieux. Donc par exemple, sur les biais, on a tous des biais, on a tous des stéréotypes. C'est d'ailleurs, les stéréotypes sont des choses qui nous permettent de raisonner rapidement. Donc ça va avoir des résultats positifs. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille en contexte d'urgence et tout, avoir des stéréotypes, avoir des cases, ça va permettre peut-être de faire des diagnostics souvent justes et rapides. En revanche, il y a des moments où ça peut nous induire, enfin, ça peut générer des erreurs, quoi. Et donc, il faut rester vigilant là-dessus, en fait. Donc, en fait, si on se dit, OK, je peux pas changer le système, mais je peux essayer un petit peu de réfléchir à comment mon cerveau fonctionne et dans quelle culture mon cerveau se nourrit. Et là, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un truc sur lequel on va pouvoir avoir un pouvoir d'action, quoi.
Super intéressant. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ah putain, j'ai pas... Donc à couper après. Mais j'ai pas réfléchi. J'ai pas du tout réfléchi, alors attends. Écoute, je voudrais claquer la porte. Alors, ça va être hyper perso, mais j'aimerais claquer la porte au fait de...
À mon voisin.
Non, écoute, comme je dis, en Bretagne, mes voisins sont des vaches, donc je les adore. Donc j'ai aucune envie de leur claquer la porte. Non, écoute, j'ai envie de claquer la porte au fait de me cramer la santé tellement je me passionne pour les trucs et j'arrive pas à mettre de limite à mes heures de travail. Donc comme je crois que je l'ai mentionné, hein, mais je sortais d'un burn-out en 2020. J'ai envie d'ouvrir la porte au fait de continuer d'être passionnée par ce dans quoi je me plonge, que ce soit la pornographie, le milieu médical, je sais pas ce que ce sera dans 3-4 ans. Mais voilà, j'ai envie de le faire tout en gardant une vie personnelle et qui soit saine et en pleine santé.
À cet endroit, j'ai fait un épisode avec Rocaille Diallo sur le burn-out militant.
Ouais.
Donc tu peux aller écouter cet épisode. Je pense que justement, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a un vrai burn-out militant qu'on retrouve, enfin tu vois c'est même une expression hein, techniquement, et qu'on retrouve de manière assez régulière. Donc c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement quand on se passionne pour un sujet, ben, on a tendance à y aller à fond dedans, et voire on peut te reprocher de ne pas être à fond dedans d'ailleurs parfois, et c'est ce qu'elle décrit. De ne pas prendre la parole sur tous les sujets. Tu vois, parce que parfois, bah, juste, tu n'as pas le temps, tu es en famille, tu as des problèmes perso, enfin, peu importe. Tu es malade, enfin, peu importe, mais voilà. Et tu peux avoir aussi cette pression de l'extérieur de dire, mais attends, mais c'est un scandale, tu prends même pas la parole sur ce sujet qui est central, etc. etc.
Donc, ah, mais c'est clair, entre ceux qui te trouvent trop engagé, ceux qui te trouvent trop molle parce que tu vois, pas assez radical, ceux qui t'expliquent que ton combat il est à côté de la plaque, enfin qu'il y a des gens qui meurent de faim, etc. C'est vrai que bon, en plus, là, moi, cette semaine, avec la sortie du rapport du Sénat, j'ai eu un nombre de prises de contact, enfin de journalistes qui m'ont contacté. Qui était fou. Alors moi je suis en Bretagne, donc en fait voilà, ça règle un petit peu la question hein, puisque les plateaux sont à Paris, mais c'est vrai que ça m'a pris une sacrée énergie mentale, parce que j'avais envie d'essayer de défendre le fait qu'il ne faut pas vouloir abolir le porno, enfin c'est un truc qui me tient à cœur. Pour autant, est-ce que je suis assez experte pour aller sur un plateau de télé défendre ma vision face à une sénatrice? Voilà, je suis pas sûre. Donc en fait, quand tu veux prendre la parole pour défendre tes convictions, faut taffer, donc tu te rajoutes du travail, faut te lire le rapport de 190 pages. D'ailleurs, il y a ma co-autrice Stéphanie Estournée qui est en train de faire ça, elle, hein, qui a consacré sa semaine à ça. Et donc, Stéphanie Estournée, c'est la personne avec qui j'ai écrit Jouir est un sport de combat, qui est un livre qui est paru il y a un an tout pile, quasiment. Et elle prend la parole en ce moment dans les médias. Voilà, c'est courageux. Je suis contente qu'elle le fasse.
Cool. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !